Radio Prague, les informations.
Bonjour, les nouveaux tarifs d'électricité n'entreront pas en vigueur en 2017. 234 personnes sont décédées sur les rails en 2015 et puis des ibis s'échappent de leur volière du zoo de Prague à cause des intempéries. L'État renonce à introduire comme prévu de nouveaux tarifs pour l'électricité en 2017, une annonce faite par Alena Vitaskova, la chef de l'autorité de régulation énergétique. Le tarif aurait désormais dû être calculé en fonction de la taille du disjoncteur. Ce nouveau système fait l'objet de nombreuses critiques qui estiment qu'il aura des conséquences sur les foyers qui s'efforcent de faire des économies. Alena Vitaskova a fait savoir qu'elle allait modifier la nouvelle tarification. En 2015, 234 personnes sont décédées sur les rails, soit 44 de moins qu'en 2014. Le suicide a été la cause de la mort d'un peu plus de 200 personnes. L'an passé, les dommages causés par des accidents de train ont connu une forte augmentation, culminant à 529 millions de couronnes, soit le double de 2014. C'est essentiellement l'accident entre un train rapide Pendolino et un camion l'été dernier près de Studenka qui a fait grimper cette somme. Il s'agit de l'accident le plus grave de l'année passée, au cours de laquelle 3 passagers sont décédés et une vingtaine ont été blessés. Les dommages ont été estimés à 157 millions de couronnes, soit un tiers des dommages pour toute l'année. Les travaux de réparation du Pendolino devraient coûter 210 millions de couronnes au chemin de fer tchèque. Le taux d'emploi en janvier de cette année s'est élevé à 71%, soit un taux record depuis 1993, a annoncé l'Office tchèque des statistiques. Le taux de chômage, lui, stagne pour sa part depuis 3 mois à 4,6%, a-t-il également annoncé. À noter que l'Office tchèque des statistiques utilise d'autres méthodes pour calculer le taux d'emploi et de chômage que le ministère du Travail et des Affaires sociales. Ce mardi matin, 18 ibis chauves se sont échappés de leur volière du zoo de Prague en raison des intempéries. Ces oiseaux rares ont pu en effet passer à travers les trous du filet de protection, en partie endommagés pendant la nuit en raison du poids de la neige mouillée tombée en abondance. Après quelques heures de recherche, les employés du jardin zoologique sont parvenus à retrouver un des ibis et sont toujours en quête des autres volatiles. De nombreuses informations sur leur présence à tel ou tel endroit de la ville sont relayées par les habitants de Prague sur les réseaux sociaux. Le directeur du zoo Miroslav Bobek a appelé les Pragois à contacter le zoo s'ils en apercevaient. Le film Obecna Škola, l'école élémentaire, va être projeté à destination de toutes les communautés tchèques à travers le monde le 28 mars prochain, en hommage à son scénariste et un de ses acteurs, Zdeněk Svěrák, qui fêtera ses 80 ans ce jour-là. Une version numérisée restaurée de ce long métrage à succès de 1991 sera ainsi présentée dans une trentaine d'endroits sur tous les continents, a annoncé Jan Svěrák, son fils, qui a réalisé le film. Père et fils ont également collaboré sur le film Kolia, qui avait remporté l'Oscar du meilleur film étranger en 1996. Et puis, à noter que 24 titres de livres et 6 blogs sont en lice pour les prix littéraires Magnesia Litera. Parmi ces ouvrages, celui de la prix Nobel de littérature 2015, Svetlana Alexievitch, La fin de l'homme rouge ou Le temps du désenchantement, pardon. 3 ouvrages sont nominés pour chacune des 7 catégories. 6 ouvrages tchèques ont été nominés cette année, à côté des spécialistes qui choisiront les vainqueurs de l'édition 2016. Les lecteurs peuvent aussi voter pour les titres en lice. La cérémonie de remise des prix se déroulera le 5 avril prochain. On termine par un mot de météo. Mercredi, jour de fête des Aneshka, le ciel fera littéralement grise mine et hormis de possibles éclaircies dans le nord-ouest de la Bohême et dans la région de la Shumava au sud, le temps restera désespérément couvert avec des précipitations à peu près partout dans le pays, de la neige le matin qui se transformera en pluie dans la journée. Les températures maximales en légère hausse oscilleront entre 3 et 7 degrés. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme présenté par Alžbeta Tichá.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour et bienvenue, chers auditeurs et auditrices, à l'écoute de Radio Prague, une émission en français qui est, comme vous le savez peut-être, consacrée à l'actualité tchèque. Merci à Anna Kubišta pour son bulletin d'information. Ce mardi, le premier jour de mars, nous évoquerons tout d'abord une procédure lancée contre Prague par la Commission européenne en raison de la violation des réglementations relatives aux zones naturelles protégées. Nous nous pencherons ensuite encore sur les Césars en présentant un entretien avec Artemio Benke, coproducteur tchèque du film Marguerite. Et enfin, dans la rubrique Panorama, nous vous proposons un entretien avec l'eurodéputée Michaela Choydrova, qui s'est engagée dans le projet de l'accueil des réfugiés chrétiens d'Irak en République tchèque. Bonne écoute à toutes et à tous. La République tchèque doit faire face à une procédure lancée par la Commission européenne en raison des manquements liés à la liste des zones naturelles protégées, dite Natura 2000. Bruxelles accuse le gouvernement tchèque d'avoir violé le droit de l'Union européenne en s'opposant à l'inscription de deux localités situées dans la vallée de l'Elbe. Si la Commission exige ces changements déjà depuis 2005, le gouvernement a récemment de nouveau refusé de les adopter compte tenu du potentiel économique de ces territoires. Le réseau Natura 2000 rassemble et permet de protéger des zones de l'Union européenne qui abritent un patrimoine naturel exceptionnel. Avec quelque 26 000 zones, il est ainsi le plus grand réseau de sites naturels protégés dans le monde. En République tchèque, il existe à l'heure actuelle environ 1100 localités inscrites sur la liste, dont par exemple la réserve forestière Hvězda à Prague ou la colline de Svatý Kopeček près d'Olomouc en Moravie. La Commission européenne demande néanmoins, depuis plusieurs années déjà, à ce que cette liste soit complétée. Or, République tchèque traîne les pieds pour accéder aux requêtes de Bruxelles. Vladimír Dolejský, de la section de protection de la nature du ministère de l'Environnement, a présenté l'évolution de cette affaire au micro de la radio tchèque.
V roce 2005 byl přijat vládou první seznam, který obsahoval něco přes 800.
En 2005, le gouvernement a approuvé la première liste qui comportait plus de 800 sites naturels d'importance européenne, mais la Commission européenne l'a jugée insuffisante et a demandé de la compléter. Même si cette liste a donc été complétée à deux reprises en 2007 et en 2009, la Commission l'a de nouveau trouvée insuffisante et a insisté en 2011 pour que la République tchèque ajoute de nouvelles zones naturelles d'importance européenne.
Depuis 5 ans déjà, l'Union européenne demande que la République tchèque inscrive sur cette liste 7 autres endroits. Ces lieux devaient être classés dans le réseau à partir du 1er janvier 2016, mais le gouvernement qui a discuté du projet à la dernière minute n'a pas adopté la totalité des changements proposés en refusant d'y inscrire 2 territoires situés dans la vallée de l'Elbe, près des communes de Hřensko et de Přelouč. Cependant, ces dernières représentent des localités précieuses, notamment en raison de la présence exceptionnelle de saumon, d'espèces rares de papillons ou encore du sonner à ventre jaune, une grenouille protégée. Selon le Premier ministre Bohuslav Sobotka, le gouvernement a d'autres projets pour la région.
Le ministre de l'Environnement nous a informé de la position de la Commission européenne. Le gouvernement l'a donc chargé d'expliquer à la Commission les raisons qui nous ont menés à prendre cette décision. Je crois que ces raisons sont solides. Nous sommes intéressés par l'exploitation économique de la vallée de l'Elbe et nous voulons maintenir la navigabilité du fleuve car nous le considérons comme une importante voie de transport alternative dans cette région. Ces dernières années, nous avons aussi consacré des moyens financiers considérables afin d'améliorer la navigabilité de l'Elbe sur le territoire tchèque. Cela représente donc quelques-uns des principaux arguments qui ont mené le gouvernement tchèque à décider de ne pas inscrire ces localités sur cette liste. Actuellement, il est donc très important que le ministère de l'Environnement transmette à la Commission européenne tous ses arguments.
La République tchèque dispose désormais d'un délai de 2 mois pour justifier sa conduite. Si l'État ne satisfait pas aux revendications de Bruxelles, la Commission pourrait saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Quand Radio Prague l'a rencontré en septembre dernier, Artemio Benke, coproducteur tchèque du film Marguerite, était persuadé que son interprète principale, Catherine Froth, remporterait un César pour cette composition d'une artiste lyrique ratée. Il avait vu juste et la réalité a peut-être dépassé ses attentes puisque le long métrage, réalisé par Xavier Giannoli et tourné en République tchèque, a également reçu les statuettes récompensant les meilleurs décors pour le tchèque Martin Kurel, les meilleurs costumes et le meilleur son. Après la cérémonie des Césars, vendredi dernier, notre correspondante à Paris, Katerina Serpkova, a recueilli les impressions d'Artemio Benchi, les impressions d'un homme pour le moins satisfait.
Alors, qu'est-ce que ça fait à un producteur français qui vit à Prague de venir à la cérémonie des Césars à Paris?
C'est comme un rêve d'enfant. Je suis français ou je suis d'origine française et forcément les Césars... C'est un rêve d'enfant pour quelqu'un qui veut faire du cinéma, comme le Festival de Cannes, d'une certaine manière. Mais sauf qu'au César, on y va quand on est français et qu'on a un film français et qu'on est producteur du film français ou réalisateur du film français. Et là, non. On a un film franco-tchèque. Moi, je suis le tchèque. Je suis le coproducteur tchèque. Et je suis là avec un film qu'on m'a coproduit. Et comme un petit enfant, on va peut-être avoir des prix. Et puis, bingo, bingo, on en a. On en a pour les gens de notre équipe, pour les gens, pour le film, pour l'actrice. Et moi, tout producteur tchèque que je suis devenu, je vis mon petit rêve français.
Et donc vous vous considérez comme un producteur tchèque aujourd'hui?
Au bout de 20 ans en République tchèque, je pense que je suis devenu producteur tchèque. Peut-être producteur international quand j'ai des grands rêves et que j'ai beaucoup bu. Mais je ne me considère plus vraiment comme producteur français, certainement.
Et alors, qu'est-ce qui était au départ, si je reviens un peu sur votre histoire personnelle, professionnelle, pourquoi vous êtes venu vivre et travailler à Prague?
C'est un peu une suite de hasard. J'avais une vingtaine d'années quand je suis venu à Prague. Je crois que j'avais envie de quelque chose qui allait à la fois vite, sans barrière et qui... était dynamique. La République tchèque l'était à ce moment-là et il s'est trouvé que j'étais en République tchèque pour plein de raisons. Mon professeur dans l'école de cinéma était tchèque, qui maintenant il a réalisé des films, il réalise des films assez connus, style Lidice, etc. Et la France était un peu bloquée, elle l'est toujours un peu hein, d'ailleurs, beaucoup plus lente et népotique. Et c'était excessivement excitant. Pour un garçon de 20 ans, Prague était un espace ouvert. Dans les années 90, c'était un espace où, quelque part, si on avait une bonne idée, si on avait de l'énergie, il suffisait d'essayer pour avoir au moins une chance de la réaliser. Je ne dis pas que c'était forcément un succès, mais par contre, on avait la chance d'essayer.
Est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qui est devenu la République tchèque aujourd'hui?
Les gens qui étaient justement, il y a une vingtaine d'années, se sont installés. Ils ont acheté un fauteuil, un sofa, une bonne place... Et quelque part, ils sont installés dans leur fauteuil et dans leur bonne place. Et quelque part, c'est devenu un pays européen, plus normal, où les choses sont plus difficilement changeables.
Est-ce que vous allez en profiter davantage maintenant de ce succès de Marguerite pour travailler plus en France ou pour justement attirer peut-être plus de production française pour travailler à République tchèque?
Oui, parce que le modèle de notre production... est un petit peu différent que beaucoup d'autres productions. On fonctionne comme coproducteur. On cherche de l'argent, on en trouve. On n'est pas seulement producteur de services où nous serions que des exécutants. On intervient aussi de manière créative sur des coproductions avec la France. C'est-à-dire que, de manière pratique, si on regarde les Césars français de Marguerite, Martin Kurel, qui est tchèque, a un César. Il a le César de la meilleure décoration, du meilleur décor, dans un film d'époque, ce qui est quand même un des prix importants, au moins techniquement. Dans les Césars techniques, c'est un des plus gros prix. Et c'est pas un Français, c'est un Tchèque. Et ce Tchèque a été amené parce que nous sommes dans une coproduction. Et du coup, a pu exprimer son talent. Cet exemple, c'est quelque chose qui doit se répéter et qui va se répéter. Notre position dans la coproduction fait que là, on va voir des films franco-tchèques et pas des films français qui ont été tournés en République tchèque. Je ne sais pas si la différence est si compréhensible, mais pour nous, un point de vue professionnel, elle est compréhensible.
Ce sera quoi les prochains films franco-tchèques?
Justement, on disait La Danseuse. qui est avec Soko, Gaspard Ulliel. Il y a aussi Lily Rose Depp, Mélanie Laurent, pardon, François Damiens. C'est un casting assez branché. Il y a aussi le film de Assayas avec Kristen Stewart, qui est quand même joué dans tous ces films de vampires, qui est un peu une star américaine, et qui est un film français. Et puis il y en a d'autres en préparation, que je ne peux pas citer encore. Et puis, plus loin que ça, toutes ces coproductions ont ouvert des choses dans l'autre sens. Il y a des projets tchèques à nous qui vont se coproduire avec la France, ou qui peuvent se coproduire avec la France, dont on parle, dont je ne peux pas parler maintenant parce qu'ils sont en projet, mais où les choses s'ouvrent dans l'autre sens aussi.
C'est ainsi que s'achève ce fait événement. Merci de votre attention. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Prague et on continue avec la rubrique Panorama qui a pour sujet ce mardi l'accueil des réfugiés chrétiens d'Irak. Bien que réticente à l'idée de voir des migrants en provenance du Proche-Orient et de l'Afrique s'installer sur son territoire, la République tchèque s'est engagée, comme d'autres pays européens, à accueillir 153 réfugiés irakiens de confession chrétienne cette année. Trois premiers groupes de familles sont déjà arrivés, pour la majorité d'entre elles en provenance d'Erbil, la capitale de la région autonome de Kurdistan irakien contrôlée par les djihadistes de l'État islamique. S'il bénéficie du soutien du gouvernement, cet accueil tchèque est d'abord organisé par Génération 21, une fondation qui s'efforce d'aider les chrétiens d'Irak et de Syrie. Membre du Parti populaire européen, qui regroupe un ensemble de partis d'inspiration chrétienne au Parlement européen, Michaela Chojdrova, ancienne professeure de français au lycée archiépiscopal de Kroměříž, s'est engagée dans le soutien à ce projet. De passage à Prague en fin de semaine dernière, lors d'un aller-retour entre Bruxelles et sa Moravie natale, Michaela Chojdrova s'est confiée au micro de Guillaume Narguet.
Panorama.
Panorama.
Je pense que c'était bien préparé, c'était longtemps préparé, parce que c'est le fonds Génération 21 qui a préparé, ce sont les bénévoles qui se sont décidés, si vous voulez, entendre, accueillir et répondre aux exigences des représentants de l'Église irakienne, aider aux réfugiés de venir en République tchèque. Alors, maintenant, on fait les activités pour accueillir les réfugiés dans les établissements qu'on a préparés. Alors, je pense que c'est une activité bien préparée ici, chez nous, en République tchèque. Et il faut souligner que c'était l'Église irakienne qui s'est décidée demander pour les chrétiens asile. Ouais, parce que vraiment, ils sont menacés, ils meurent, ils sont persécutés. Alors, ils ont demandé, je pense dans tout le monde, je sais en France, il y a beaucoup de réfugiés chrétiens. Alors, nous participons dans cette mouvement européen pour contribuer au sauver les chrétiennes irakiennes.
Donc ces réfugiés qui sont arrivés ou qui vont arriver en République tchèque ont été choisis, si on peut dire, par l'Église irakienne.
Oui, ils étaient choisis, mais ils étaient aussi choisis par les personnes qui travaillent là, qui sont venues de Génération 21. Ce sont les personnes de cette fondation qui sont voyagées à Erbil pour contacter les concrètes personnes et pour préparer les familles et les autres personnes qui vont venir. Alors, c'est bien coordonné, je crois.
Quelles sont les différentes personnes qui composent ce groupe de réfugiés? Quelles sont leurs histoires et leurs profils?
C'est très différent, mais il y a des familles, les grands-parents, les enfants et les petits-enfants, c'est ce que j'ai vu. Les professions, ça dépend des informatiques, des instituteurs, des médecins, mais aussi des ouvriers. C'est très mélangé. Et je pense qu'il y a aussi à peu près 20% des enfants qui sont là, des mamans. Mais je crois qu'on a choisi vraiment les groupes par les familles, parce que c'est organisé comme ça en Irak. Alors, ils vivent dans les familles, alors ils veulent partir dans les familles. Je crois que c'est très naturel, c'est très bien organisé.
Quelles sont les mesures, le programme qui a été mis en place ici, d'abord pour les accueillir et pour qu'ils s'intègrent et s'habituent à leur nouvelle vie en République tchèque?
La Fondation 21, ce sont les bénévoles qui n'ont pas la grande expérience. Ils se sont liés avec les professionnels et les NGO qui travaillent dans les intégrations des immigrés longtemps. Alors, on a préparé le programme structuré. Les premières 2 mois, on prévoit qu'ils vont rester dans les établissements. Ce sont les établissements pas d'État, ce sont les établissements privés ou les établissements des organisations humanitaires ou des religions. Par exemple, j'étais à Smilovice où il y a, ça s'appelle Carmel, c'est l'établissement de l'église évangélique. Alors, ce sont les petits établissements, pas grandes. Pour là, il y a maintenant 3 grandes familles. Il y a à peu près 20 personnes, par exemple là. Là, premièrement, ils vont apprendre la langue, les informations, les connaissances de la République tchèque, de l'histoire, de la société civique, des religions. Mais surtout, ils seront contactés par les gens, par les citoyens qui vont maintenant ménager et soigner des familles pour qu'ils se sentent très bien ici, pour qu'ils s'établissent, pour qu'ils s'adaptent sur les nouvelles conditions. Par exemple, pour eux, ça devrait être étrange que quand ils sont venus, dans la minuit, la semaine passée, il y avait plein de neige. Il faisait froid, mais le matin, il faisait déjà mieux. Alors, ils vont s'adapter, je crois, ils vont avoir les nouvelles expériences et ce qu'il est important qu'on va se connaître mutuellement. Après les 2 mois, on va les déménager dans les logements, dans les certaines communautés. Il y a 3 ou 4 villes où on le prépare. C'est à Jihlava, Brno, Liberec, Praha, peut-être Zlín. Alors, il y a plusieurs communautés où on prépare les logements, mais aussi une communauté de chrétiens qui vont continuer dans le soin. Il faut aider pour l'adaptation des personnes âgées, des enfants.
Comment se passe leur accueil? Vous avez évoqué cette commune en Moravie de Smilovice. On sait qu'il y a eu, par exemple, une pétition qui a été lancée contre leur accueil. Donc, on peut supposer que la communauté chrétienne qui est sur place s'efforce de les accueillir du mieux possible. En revanche, pour ce qui est des populations, la population tchèque autour, qui n'est pas forcément impliquée dans cette communauté chrétienne, quel est le regard qu'ils portent sur l'arrivée de ces réfugiés?
Ce que j'ai vu, c'est très important, si la représentation de la ville, notamment dans Smilovice, c'était le maire de Smilovice, qui a dit « nous les accueillerons, nous les invitons, nous voulons qu'ils s'adaptent, etc. etc. » Si la représentation communale est capable de dire, tout le monde se tranquillise, les gens se tranquillisent, et bien sûr, c'est encore provoqué des forces extérieures. C'est évidemment, c'était les gens qui sont venus des autres villes avec l'intérêt de provoquer cette opposition, si vous voulez. Mais ce que j'ai vu là, dans le même place, c'était les 10 personnes qui s'occupaient des gens qui préparaient l'ambition, qui préparaient l'accueil. Ils étaient très motivés positivement. Je n'ai vu rien, je n'ai pas entendu aucune voix contre cet accueil. Mais, bien sûr, si on attend quelque chose dans la télévision, dans les médias négatifs, Alors, on peut s'organiser aussi ces attaques. Mais je crois qu'il est important de montrer la page positive. Et aussi, il faut que les gens entendent les voix des représentants positifs. Ça, nous essayons. C'est pourquoi je m'engage, parce que comme le membre du Parlement européen, je peux encourager ces tendances plutôt positives. Et aussi, je vais encourager la Fondation Génération 21, je vais encourager les représentations municipales pour qu'ils accueillent, pour qu'ils contribuent à cette acceptation positive des réfugiés, réfugiés chrétiens, réfugiés qui ne menacent pas personne, qui sont au contraire menacés.
Ce programme d'accueil est une initiative de cette organisation, Génération 21. C'est un programme qui bénéficie également du soutien du gouvernement tchèque. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il était vraiment important que ces réfugiés qui sont accueillis soient chrétiens?
Je peux dire que c'était l'initiative sur le demande de la religion irakienne, de la religion chrétienne irakienne. Alors, on ne décidait pas. Ils nous ont demandé, nous savons que les chrétiens là sont menacés, alors nous devons décider, soit nous allons entendre, soit nous allons aider à cette demande, ou nous refusons. Alors, je crois que c'est très bien que notre gouvernement a entendu cette voix et qu'elle a répondu positivement. Oui, dans ce cas, c'était important que ce sont les chrétiens parce qu'ils sont très menacés. Ils se sont décidés comme la communauté des chrétiens irakiens qui sont menacés dans la vie, oui, qui sont persécutés. Alors, nous avons répondu à cette voix, à cette demande.
C'était donc l'eurodéputée Michaela Šojdrová et c'est la fin de ce programme qui vous était présenté par Alžbeta Tichá. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site de Radio Prague, www.radio.cz/fr, ainsi que sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Ahoy !